sur le terrain, dans les médias, à la tête des fédérations, où sont les femmes ? En 2022, le sport féminin ne représente pas encore un cinquième des retransmissions télé, les femmes ne représentent pas non plus plus qu'un tiers des licenciés des clubs sportifs en France, bref, le chemin est encore long. Direction Brechini, ces derniers mois, les footballeuses du CPB ont réussi à faire parler d'elles, malheureusement pas pour leur performance sur le terrain, mais plutôt pour une action coup de poing. Les médias ont accouru quand elles ont décidé de mener une opération coup de poing, retirer leurs shorts de foot pour dénoncer l'inégalité de traitement entre filles et garçons. En gros, la Fédé donnait plus d'équipements aux hommes qu'aux femmes, une opération qui a porté ses fruits puisque la Fédération Française de Football a depuis corrigé les choses. Un coup d'éclat qui ne met pas en avant le travail du quotidien mené au Cercle Paul Bert.
Rodolphe Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous d'abord vous présenter pour commencer cet entretien ?
Alors, je suis le responsable du développement du football féminin sur le Cercle Paul Bert, notamment sur les différents quartiers sur lesquels on intervient, à savoir Brechini, qui est le gros pôle foot féminin sur le Cercle Paul Bert, mais également les Gailleux et les Villejean qui sont en progression, et puis d'autres quartiers sur lesquels on essaie d'intervenir, comme le Blône, le Nord-Ouest et Clunet.
On va commencer sans échauffement, c'est pas très conseillé dans la pratique sportive normalement, mais est-ce que vous considérer qu'il y a un foot féminin et un foot masculin.
Effectivement, on n'a pas les mêmes caractéristiques en termes de personnes. On a une ancienneté qui est différente aussi, et donc du coup un développement qui est différent sur les pratiquantes. Le foot féminin, c'est relativement jeune, c'est développé en France à partir des années 70. Donc on a, si on fait le compte, presque 60 ans de retard sur le foot garçon. On est en train de le rattraper. Voilà, est-ce qu'il est différent ? Est-ce que c'est un football différent ? Chacun aura son appréciation. Moi, je pense que oui, parce que voilà, on a des populations différentes, on n'a pas les mêmes caractéristiques, que ce soit d'encadrement, que ce soit d'objectifs, que ce soit de développement, et puis on n'a pas les mêmes coachs. Donc voilà, tout ça, ça fait que effectivement, ça peut être un football différent.
On va essayer de dresser avec vous ce panorama. Vous parlez du retard accumulé par le foot féminin par rapport à son voisin masculin. Pourtant, historiquement, le CPB s'inscrit depuis longtemps dans cette thématique du foot féminin.
Ouais, bien sûr. Je pense que sur le Cercle Paul Bert et en l'occurrence Brechini, on a développé, on a mis en place des choses qui font que nous, sur le club, on est à même niveau que le foot garçon, voire même en avance sur certains aspects, en retard sur d'autres, effectivement. Par contre, si on prend un point de vue global, là, oui, il y a une différence encore.
Sur quoi vous êtes en avance par rapport aux garçons ?
Par exemple, l'aspect performance, on va dire, ou sur le développement des sections sportives notamment, ça fait 4 ans qu'on a les a mis en place au niveau du collège, en partenariat avec le collège des Chalets, et au niveau du lycée, sur le lycée Brechini. Donc on offre à certaines jeunes filles, celles qui rentrent en section, plusieurs séances d'entraînement dans la semaine, à savoir que les collégiennes ont 3 séances en plus de perfectionnement, plus les séances club. Les lycéennes, elles ont tous 6 séances par semaine. Là, on est sur l'aspect performance. La section sportive garçon du CPB Brechini, par exemple, en collaboration avec nos collègues de la TRN, a ouvert cette année.
Mais c'est une façon de remplir un manque aussi sur le foot féminin, où il n'y a pas de club locomotive. On peut penser, par exemple, au Stade Rennais, qui aurait pu prendre en main cet aspect performance. Vous remplissez ce vide-là ?
Ouais, on essaye en tout cas d'être en avance et d'avoir un parcours performant. Performance sur Rennes au niveau du foot féminin. Le Stade Rennais est en train de s'y installer, à nous et à eux de voir comment on peut travailler ensemble pour que les deux puissent s'y retrouver. Mais effectivement, il y avait un gros créneau parce qu'il y a du monde, il y a des joueuses de foot sur l'île et Vilaine, il y en a qui demandent ça. Il fallait s'insérer dans ce créneau pour leur proposer ça.
En 2019, Rennes a accueilli aussi la Coupe du Monde féminine. Vous avez senti un engouement depuis, ou est-ce que ça a été un feu de paille et depuis tout s'est retombé un petit peu ?
Bah, je pense que c'est difficile de faire un point par rapport à ça, parce qu'il y a les événements des dernières années qui ont dû jouer, la pandémie, le Covid, forcément ça a joué. On a eu du mal, je pense, à surfer dessus, et puis la Coupe du Monde, c'est aussi un événement qui est très fédéral, on va dire ça comme ça, donc c'est pas forcément les clubs qui l'ont porté. Donc, du coup, est-ce qu'il y a eu des retombées dessus ? Je sais pas. Nous, à Brechini, on avait du monde. On a toujours eu du monde. On aura encore du monde. On n'a pas vu d'impact par rapport à ça. Est-ce que dans les petits bourgs, les petits clubs, les villages à côté, il y a eu du développement ? Je pense oui. Ça se voit au niveau du nombre d'équipes qui s'inscrivent. Ça se voit au niveau du nombre de pratiquantes. Nous, sur le Cercle Paul Bert, ça ne nous a pas impacté directement.
Ça fait du bien malgré tout pour le Cercle Paul Bert aussi. C'est des partenaires ensuite avec lesquels vous pouvez travailler.
Ouais, effectivement. Bah, c'est des joueuses qui qui peuvent nous rejoindre plus tard, donc ça c'est certain. Et puis bah, le niveau de pratique augmente, plus il y a de joueuses, plus le niveau est intéressant. Donc à nous encore de développer ça pour que pour le coup le foot féminin progresse encore, soit de plus en plus homogène et de plus en plus homogène vers le haut niveau.
Et ce foot féminin, on en parle avec vous aujourd'hui, Rodolphe Leclerc, en charge de la section féminine ici au CPB. Les femmes dans le foot, d'abord sur le terrain, vous le dites, il y a un engouement malgré tout, voilà, des sections qui grandissent selon les quartiers, c'est vrai ici à Brétigny, c'est vrai aussi sur les Gailleuls, sur Villejean. Des quartiers populaires, ça rejoint finalement ce qu'on a comme image du foot, ça reste le sport populaire par excellence?
Je pense. Tout le monde connaît, tout le monde pratique, que ce soit en club ou pas. On essaye en plus de ça de le développer avec des ateliers dans les écoles. C'est là où le partenariat avec la ville de Rennes aussi est important et primordial. Donc partenariat aussi avec nos fédérations comme la Ligue ou le District sur les cycles balle au pied qu'on peut mettre en place dans les écoles. Oui, le foot c'est populaire, oui ça touche tout le monde, oui c'est facile d'accès. À nous de poursuivre sur cette voie pour proposer à toutes les jeunes filles qui veulent essayer et qui veulent s'y inscrire et continuer d'avoir des créneaux pour elles.
Et vous travaillez dans les écoles, vous le dites, est-ce que ça... Il y a toujours des remarques comme quoi les filles ne doivent pas jouer au foot dans les cours d'école pour les garçons et autres?
Non. Là, sur cette année, par exemple, je suis sur deux ateliers de foot le midi. Exemple concret, hier, on fait un jeu d'échauffement. Bah, coup de bol sur la moitié, c'est deux garçons qui gagnent. Donc, ils font les équipes. Et bah, y en a un premier choix qu'il fait, c'est une fille. Donc, voilà, il y a de moins en moins de pensées négatives par rapport à ça. Je pense que les garçons sont éduqués à ça de plus en plus. Il y aura toujours des comportements si ce n'est déviant un peu particulier, mais de moins en moins.
Ça, c'est vrai pour les jeunes générations, mais est-ce que c'est vrai aussi pour les parents qui sont parfois plus turbulents que les enfants?
Ouais, on voit la chose différemment. L'accompagnement des parents dans le foot féminin est un peu différent de ce qui peut être chez les garçons. Il y a moins d'emprise, les parents sont plus spectateurs. Donc on est moins touché par ça.
Comment vous l'expliquez ce phénomène là?
Je pense qu'il faudrait appeler des parents et leur demander.
c'est quoi les parents de jeunes footballeurs se projettent plus dans une carrière pro par exemple? Ils ont plus d'attentes dans ce sens là?
Non, je pense qu'ils sont peut-être plus détachés avec leur fille qu'avec leur fils, et du coup sont plus dans l'observation de la pratique que dans est-ce que dans leurs pensées les plus profondes, il y a l'envie d'en faire un futur Mbappé? Peut-être. Je ne pense pas que ça touche la grande majorité des personnes, mais il y a peut-être aussi de la méconnaissance par rapport au football féminin. Et c'est différent d'appréhender un groupe de garçons d'un groupe de filles. Donc peut-être qu'il y a aussi moins de connaissances et la peur de mal faire.
Mais ça veut dire que pour vous, en tant qu'éducateur, c'est plus facile aujourd'hui d'entraîner des filles que d'entraîner des garçons, en tout cas sur ce volet-là de relations avec les parents?
Je sais pas. Moi, ça fait 10 ans que j'entraîne des filles. Ça se passe très bien, donc je me pose pas la question.
Et vous continuez de le faire avec des résultats. Sur ce volet aspect foot pro, justement, il y a des attentes malgré tout chez les parents de footballeurs et footballeuses. Est-ce qu'il y en a aussi aujourd'hui de plus en plus dans ce domaine qu'est le foot féminin? Est-ce que le fait de voir du foot féminin à la télé, des joueuses qui vivent aujourd'hui de ce sport, ça donne des idées aux jeunes filles qui débutent le foot?
Ouais, bien sûr. Alors celles qui débutent, je sais pas. Celles qui sont déjà au collège et qui arrivent au lycée, oui, bien sûr. Notamment parce que la filière d'accès au niveau et au très niveau, elle est beaucoup plus courte. On peut avoir débuté le foot à 13-14 ans, avoir une ou deux qualités fortes et vite monter dans les échelons. Donc bien sûr, il y a un parcours d'accès qui est plus simple, on va dire, chez les filles. Il y a moins de concurrence, il y a moins de division, moins de niveau, donc on monte plus vite en compétences et dans la difficulté des championnats. Donc bien sûr, il y en a qui s'y projettent. Maintenant, à nous de les ramener sur terre et aussi de leur faire comprendre que même en D1 féminine, bah, tout le monde n'est pas pro. Même en D2 féminine, dans les clubs professionnels, tout le monde n'est pas pro. Donc à nous de les informer sur comment ça marche, sur comment ça fonctionne, sur le travail encore qu'il faut accomplir, parce que même si on est professionnel chez les filles, chez les femmes ensuite, on doit penser à l'après-carrière et la scolarité, le parcours de vie, reste une priorité pour nous.
C'est le métier, ça, d'éducateur, finalement, vous éduquez plus à la vie qu'au foot ?
Ouais, bien sûr, et puis voilà, en tant que parent, je pense qu'on a ça aussi en réflexion au quotidien. Peut-être que les éducateurs plus jeunes y pensent pas. Moi, j'ai ça, cette petite musique qui est là, et puis bah, j'ai eu la chance de côtoyer des filles qui sont d'un très bon niveau, qui ont joué en équipe de France et qui touchent pas non plus des milliers des cents. Donc après échange avec ces personnes-là, bah, forcément, on pense à la suite.
Comment on fait pour que le sport reste malgré tout un plaisir, quoi qu'il arrive, peu importe le niveau ? Est-ce qu'on est vigilant à ça, forcément ?
Ouais, bien sûr, ça dépend de chacun, je pense. Moi, je sais que si je prends mon cas personnel, j'ai du plaisir quand c'est difficile, quand il y a du travail. Voilà, chacun, peut-être que un tel et un tel vont avoir du plaisir quand on va jouer avec les copains et les copines et qu'il n'y a pas de contraintes, d'autres vont prendre du plaisir quand justement ça va être difficile et qu'il va falloir s'entraîner 6, 7 fois par semaine. Je pense que c'est à chacun. On essaye en tout cas, nous, dans les profils qu'on cible et dans les propositions d'équipe qu'on a, d'orienter les jeunes filles vers la bonne pratique.
De la performance, mais au service du plaisir.
Ouais, c'est ça. Alors, soit un foot loisir, soit un foot performance. Ce qui n'empêche pas, après, dans le foot loisir, d'être performant et de bien faire les choses.
Et inversement, effectivement. Autour du terrain, et également, les femmes sont-elles de plus en plus présentes dans l'encadrement, par exemple, prendre en charge une équipe ?
Ouais, bien sûr. Alors, sur les dirigeantes, on a encore pas mal de travail à faire. La fédération met en place des formations de dirigeantes. Donc, à nous d'orienter les mamans, notamment, vers ça. Sur les éducatrices, on travaille aussi beaucoup dessus. Je pense que c'est le gros point de développement qu'on doit avoir, nous, sur les prochaines années. On a quelques-unes ponctuellement sur le cercle Paul Bert qui s'y inscrivent. Maintenant, il faut que ce soit pas une obligation, mais que ce soit une volonté de la part des jeunes, qu'elles se construisent sur ce parcours d'éducateur, d'éducatrice. Sur les sections sportives, les filles sont en formation chaque année, elles passent des modules, des diplômes, on les envoie sur l'école de foot nous accompagner pour animer les séances. À nous de créer ces vocations chez les jeunes filles, pour que derrière elles deviennent des éducatrices, pour que derrière elles deviennent des entraîneurs, et qu'on puisse avoir des filles qui entraînent les filles, on puisse avoir aussi des filles qui entraînent les garçons, parce que je pense que la force, elle est là, l'intérêt, il est là, c'est qu'il y ait de la mixité, qu'il y ait de la transversalité entre le foot garçon et entre le foot fille.
Mais est-ce qu'il y a des transversalités qui sont difficiles encore aujourd'hui ? Est-ce que des garçons auraient du mal à avoir une coach féminine ?
Je pense que l'intérêt, il est sur le niveau de compétence, tout simplement. Il y a des garçons qui ont été, qui ont pu être réticents à venir dans du football féminin. On en a quelques exemples chez nous. Maintenant qu'ils y sont, ils sont très contents. Ils n'ont pas forcément envie de repartir chez les garçons. Ils ont trouvé leur rythme et leur population. Chez les garçons, on est plus sur trouver la bonne personne, la bonne éducatrice qui sera en mesure de driver un groupe de garçons, ce qui n'est pas évident. Hein, quand on est notamment au cercle Paul Bert sur des groupes d'adolescents de 14-15 ans, on a une quarantaine de gamins, on est une fille, comment est-ce qu'on le met en place ? Donc c'est à nous de les accompagner, de les construire par rapport à ça. Et puis il faut que ce soit aussi une volonté de la part de l'éducatrice qui a aussi peut-être plus de connaissances du football féminin que du football garçon. Donc il faut être en mesure de les former sur ces deux aspects.
Mais c'est plus difficile à ce moment-là de prendre un groupe de 40 jeunes pour une femme que pour un homme ?
Il y a forcément les représentations qui jouent. Après, il y a une question d'autorité aussi qui est présente. Je pense qu'avec une femme avec de l'expérience qu'on va accompagner, dont on sait qu'elle peut gérer des groupes de garçons, oui, il n'y a pas de souci pour que ce soit le cas.
Un mot également, parce qu'on parle des équipes, des joueuses sur le terrain et des encadrants et encadrantes autour, mais sur l'arbitrage, il y a l'exemple en Ligue 1 de Stéphanie Frappard, arbitre professionnel qui évolue aujourd'hui en Ligue 1, qui prend souvent des torrents d'insultes suite à ses prestations. Est-ce que vous pensez que c'est dû notamment à son statut de femme arbitre ?
Non, je pense qu'il y a autant d'arbitres garçons qui prennent des volées. Je pense que c'est juste qu'on les remarque plus facilement quand c'est des femmes. On veut les faire remarquer. Voilà, à mon avis, si on veut que ça se passe bien, il faut plutôt les encourager. Les réactions des coachs de Nice et de Nantes sur sa nomination pour la Coupe de France sont hyper intéressantes par rapport à ça. Voilà, maintenant, elle est toute seule, donc forcément... on la juge, elle, toute seule, par rapport à une vingtaine d'arbitres garçons. Donc voilà, forcément, elle a fait une erreur, bah, c'est une pour une. Quand il y a un garçon qui fait une erreur, c'est une erreur pour 20 garçons. Donc le rapport n'est pas le même. Mais à nous d'encourager les femmes sur ça, ne pas faire en sorte qu'elles soient promues sur des niveaux où elles ne méritent pas d'être. Voilà, faut arbitrer à son niveau. Si elles le méritent, faut y aller, il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Et ça, la question de l'arbitrage, est-ce qu'elle attire aussi les jeunes filles aujourd'hui?
Alors la fédération aura plus de réponses à vous donner que moi. Nous, au club, on a deux jeunes arbitres qui sont intéressés par ça, qui font bien leur travail, à qui on fait confiance totalement sur ça, qu'on essaye d'accompagner autant qu'on peut sur le temps et les missions qu'on peut avoir. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi une philosophie qui est différente entre une femme et un homme sur l'arbitrage. À nous de faire comprendre aussi aux joueurs et aux éducateurs qu'on a qu'un arbitrage féminin peut aussi être intéressant dans la gestion des conflits, par exemple, ou la prise de décision. Bah, ça peut être bien plus positif que des hommes, des fois.
Rodolphe Leclerc, notre invité aujourd'hui sur le foot féminin ici au CPB. Vous avez évoqué aussi cette situation dans la cour d'école avec un garçon qui était capitaine d'équipe et qui devait construire son équipe, qui a choisi en premier une fille. C'est vrai que ça résonne forcément avec des souvenirs qu'on a et qui n'étaient pas forcément les mêmes il y a plusieurs années maintenant dans les cours de récré. Est-ce que la pratique mixte, ça peut être une solution pour faire émerger encore plus facilement le foot féminin?
Il faut tourner vers ça, il faut aller vers ça. Maintenant, il faut que ce soit aussi en accord avec le niveau de pratique des filles. C'est-à-dire que mettre des filles dans une équipe de garçons, si elles restent sur le côté, que les garçons ne s'intéressent pas à elles et qu'elles ne touchent pas un ballon, ça aura un impact négatif. Il faut toujours se trouver dans le bon groupe. Je pense que c'est ça. Des filles qui ont un bon niveau de pratique, qui jouent avec des garçons, il n'y a pas de souci, ça matche bien. Nous, au cercle, on a une équipe de filles qui jouent contre des garçons. Donc c'est aussi une forme de mixité. Voilà, on essaye de le mettre en place de plus en plus. On le fait au niveau des sections sportives sur une séance également hebdomadaire où les filles et garçons sont mélangés. C'est accepté par tout le monde. Voilà, maintenant, chez les jeunes, c'est plus difficile à mettre en place. Je pense que c'est au ressenti surtout de chaque jeune fille, des garçons aussi, parce qu'il faut pas forcer la chose quand on a des enfants qui ont 10 ans ou moins sur la mixité. Voilà, est-ce que ça peut être un groupe de filles dans une séance de garçons? Est-ce que c'est pas déjà une étape dans la mixité? Il y a des questions à se poser par rapport à ça. Je vous avoue que nous, au cercle, on se les pose tous les ans et on change notre fusil d'épaule régulièrement. On a aussi des familles qui viennent avec des jeunes filles qui veulent faire du foot qu'entre filles. Bah, qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur dit non parce qu'on visait la mixité? Est-ce qu'on leur propose quand même quelque chose? Voilà, il y a du pour et du contre à peser. À nous de trouver le meilleur moyen d'organiser tout le monde.
Et c'est un gros boulot, on l'imagine, parce que les plannings sont déjà bien chargés entre toutes les équipes du CPB. Donc quand on doit créer des passerelles entre les équipes, comme ça complique encore plus les choses.
Bah, c'est une politique de club à mettre en place. Voilà, est-ce que il faut faire de la place à tout le monde. Voilà, nous, éducateurs, à moi, responsable du foot féminin, de pouvoir échanger aussi avec les garçons, leur montrer l'intérêt de ça s'il y en a un et leur faire comprendre que voilà, pour pas mal de choses ça peut aussi les avantager, leur rendre service, éduquer les garçons de façon différente peut-être, que ce soit au niveau de la civilité mais sur la pratique du foot, parce que la mixité aussi engendre des problématiques foot pour les garçons, donc ça peut aussi être un apprentissage différent.
Lesquelles? Quelles problématiques?
Bah des réflexions sur une adversité qui va être différente, peut-être moins athlétique, peut-être plus réfléchie, et forcément une adaptation en termes d'engagement, en termes de réflexion qu'ils vont avoir.
Donc ça fait progresser tout le monde, et finalement c'est du donnant-donnant, en tout cas c'est ce que vous essayez de faire quand vous mettez en place ces pratiques?
C'est l'objectif, ouais.
Un dernier mot, parce qu'avec tout ce que vous nous expliquez aujourd'hui, Rodolphe Leclerc, on comprend quelque chose, c'est que vous êtes aussi le fruit de l'éducation des enfants que vous éduquez à travers le football. Le football ne peut pas tout régler?
Non, bien sûr que non, parce qu'on a les enfants seulement quelques heures par semaine. C'est autour d'un loisir. Donc l'événement de l'entraînement, l'encadrement tourné vers ça, l'objectif du ballon adoucit un petit peu la chose et fait que tout le monde est tourné vers un objectif commun.
C'est plus facile donc de faire passer des messages dans ce cadre-là?
Largement.
Qu'à l'école, par exemple?
Ouais, largement, ou que dans la famille, ou que dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr.
Bon, c'est un des beaux rôles du football, effectivement. Combien de filles aujourd'hui jouent et évoluent au CPB ?
Alors sur Bikini, on est à peu près sur 120 filles et puis on doit être près de 200, 250 sur tout le cercle.
Donc ça fait du monde à encadrer également et beaucoup de planning de terrain à gérer, à organiser. L'objectif à long terme, c'est quoi ? C'est de continuer de conserver ce savoir-faire, cette pratique ?
Ouais, bien sûr. Alors on essaye de pousser les murs un tout petit peu aussi à chaque fois, dans les discussions qu'on a avec la ville, dans les discussions qu'on a avec le club pour une égalité de traitement entre les garçons et les filles. Il faut occuper tous les espaces, ça c'est certain. C'est ce qu'on a fait avec les sections sportives où finalement sur les lycéennes, on leur propose 5 séances hebdomadaires. Sur les collégiennes, elles en ont 3 en plus. Donc on pousse là-dessus. Et puis après, il faut réussir à investir les filles sur l'entraînement. Quand il y a une séance, elles sont présentes sur une séance. Quand il y en a 2, il faut qu'elles soient présentes sur 2. Quand on en propose 3, il faut qu'elles soient présentes sur les 3. Parce que si on en propose 3 et qu'elles sont présentes sur 2, on a perdu notre challenge. Donc voilà, on doit essayer de les engager sur ces parcours-là avec une pratique de plus en plus complète, de plus en plus efficace également.
Et aujourd'hui, vous, en tant que responsable de la section féminine ici au CPB, la réussite, c'est quoi ? C'est de voir une joueuse qui va émerger au niveau pro en équipe de France ou c'est de voir une jeune joueuse qui va revenir chercher sa licence l'année suivante ?
Les deux. Les deux, parce qu'on doit s'occuper de tout le monde. Effectivement, si on est sur les filles qui montrent l'exemple ou qui sont un peu les têtes d'affiche, et voilà, des joueuses qui sont en équipe de France, des joueuses qui partent dans des clubs pro derrière, qui vont jouer en D1 féminine, tout ça c'est intéressant, ça prouve qu'on a fait du bon travail avec elles avant. On a notre équipe U19 Nation qui est en passe de se maintenir, donc ça va être l'objectif aussi de pérenniser les équipes à haut niveau sur le niveau national. L'AR1 qui jouera les barrages sur le mois de juin, qui a l'objectif de monter en D2. Donc ça, c'est nos têtes d'affiche. Et puis après, effectivement, toutes les joueuses qui, d'une année sur l'autre, reprennent leur licence, les joueuses qui sont à l'extérieur du club, qui viennent au club pour jouer parce qu'elles en ont entendu parler en bien, tout ça, on prend également. Et puis, éventuellement, les résultats de nos équipes le week-end, même si ça, c'est moins pertinent parce que on est dans l'affect du match et du résultat. Mais pour les filles, on sait que c'est pertinent aussi. Mais voilà, une gamine qui a le sourire à la fin de son match, à la fin de sa séance et qui repense à l'essence pour l'année d'après, je crois que c'est la priorité.
On avait le souvenir aussi du CPB qui s'était illustré en Coupe de France, les joueuses en enlevant le short, ça avait fait beaucoup de buzz à l'époque, mais ça représente bien aussi la philosophie que vous défendez. Il y a un côté militant derrière le fait d'armer comme ça les filles à faire du foot.
Ouais, bien sûr. Alors c'est porté par le club, c'est porté par les filles aussi. Et je pense qu'il faut leur rendre hommage sur ça. Ça a fait bouger les lignes, puisque sur la dotation de la Fédé l'année prochaine, elle sera complète. On a vu qu'il y avait un changement aussi des dotations au niveau des clubs en termes d'argent. Donc tout ça c'est positif. Est-ce que c'est grâce à nous ? Peut-être. Est-ce que c'est grâce aux filles ? Peut-être, sans doute. Donc je pense que c'est aussi une façon de montrer qu'elles sont actives et elles sont actrices de leur projet. Et ça c'est important parce que c'est pas moi le responsable, c'est pas les coachs, c'est pas les dirigeants qui portent ça. C'est les filles d'abord qui portent leur projet.
Rodolphe Leclerc, merci beaucoup.
Merci.